France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 à la plage, celle du Lavandou dans le Var, où je me trouve, une plage qui, comme beaucoup en France, recule mètre après mètre sous l'effet de l'érosion côtière. Ce département est le plus exposé de notre pays, plus de 400 logements menacés d'ici 2050, dont la maison de Christelle à Cavalaire-sur-Mer.
Avant, en fait, donc on ouvrait le portail, on sautait depuis les rochers et on avait la plage. On traversait quelques mètres et on allait se baigner un peu plus loin. Et là, de plus en plus, donc il n'y a plus de plage.
Alors comment agir? 20% de notre littoral est concerné, l'équivalent d'un terrain de football disparaît chaque semaine dans notre pays devant l'avancée de la mer. Nous verrons quelles sont les solutions. Faut-il privilégier les méthodes douces, en finir avec le béton et les rochers pour nous protéger? Faut-il faire reculer dans les terres les activités et les logements? Et si oui, qui va payer? Reportage et invité d'ici 14h. Et avec vous en studio, Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Les autres titres de l'actualité de ce jeudi.
À la une, quelle Europe pour l'avenir et quel avenir pour l'Europe? Emmanuel Macron prononce en ce moment son deuxième discours de la Sorbonne à un mois et demi des élections européennes. Et d'entrée, il a mis en garde.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Emmanuel Macron appelle à bâtir notamment un concept stratégique de défense européenne ou à devenir leader dans l'intelligence artificielle. Décryptage à suivre. Le chômage stagne, plus 0,1% sur le premier trimestre par rapport à la fin de l'année dernière. Perrier, c'est pas foufou. 2 millions de bouteilles jetées après une contamination, notamment avec des matières fécales. La confiance est entamée. Comme un moulin sans ailes, le Moulin Rouge a perdu un peu de son âme cette nuit. Ses ailes sont tombées. Nous serons sur place à Montmartre. 5 € pour les canaux. L'entrée est payante. Désormais à Venise, nous verrons comment le Mont-Saint-Michel compte réguler sa propre marée humaine.
Et puis, clin d'œil, juste avant 14h, nous irons à Saint-Tropez, pas très loin d'ici, où l'on fête cette année les 60 ans du premier volet de la célébrissime saga du Gendarme. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous dans le Var.
France Inter.
12, c'est le nombre de plages que compte cette commune du Lavandou. Nous sommes entre Toulon et Saint-Tropez, département du Var. Donc, nous sommes installés sur la plage du centre-ville, qu'on appelle aussi plage familiale. Alors, il y a peu de baigneurs dans l'eau à cette heure-ci, mais il y avait beaucoup d'enfants ce matin avec leurs pelles et leurs seaux. Ce sont les vacances ici. Et juste derrière cette plage, à quelques mètres seulement de la mer, un large trottoir, la route étroite, puis des hôtels, des résidences, des restaurants. Ici, logements et activités sont vraiment au ras de l'eau. C'est la particularité de cette côte méditerranéenne. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement concernée par l'érosion et ses conséquences. À quelques centaines de mètres d'ici, sur une autre plage, la plage Saint-Clair, Sabine Bonifacio tient le restaurant de plage, le Five Beach. Et chaque année, son espace disponible se réduit.
Cette année, j'ai perdu 4 mètres de sable. Habituellement, j'ai 6 rangées de transat, qui équivaut à peu près à 90 matelas. Cette année, je commence avec une rangée, parce que j'ai plus de sable. Nous, c'est un autre problème, parce qu'on va repostuler pour les concessions et on loue quand même un endroit qu'on n'a plus. C'est pas un secret. Moi, personnellement, je paye 42 000 euros de concession. Chaque été, pour 6 mois. Et j'ai 15 employés, 15 salaires à sortir. Évidemment que je me sens concernée par cette érosion. Les vacanciers ne s'en préoccupent absolument pas. Quand ils viennent, ils voient effectivement que la plage diminue, mais c'est tout, ça s'arrête là. Les vacances d'été sont assurées, donc on verra l'année prochaine.
Alors tout de même, des choses changent ici. On ne ramasse plus sur les plages les herbes de Posidonie, ces plantes qui aident à fixer le sable. On a enfoncé des pieux en bois dans le sable également pour le fixer, mais ça ne suffit pas, nous a dit Sabine ce matin, qui demande d'autres actions. Dans quelques minutes, le maire du Lavandou sera à mes côtés pour lui répondre, tout comme le responsable de l'État dans le département, le directeur de la direction des territoires et de la mer. Ce sera très intéressant parce que les élus locaux et l'État sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Et puis nous verrons que le Var est aussi un exemple en Europe dans sa lutte contre l'érosion côtière. Hier, une délégation venue de tout le continent était en visite et je suis allé à leur rencontre. Le temps de retrouver mes invités. Christelle, je vous laisse la main pour toute l'actualité de ce jeudi. Et on va commencer évidemment par le discours de la Sorbonne, acte 2 en ce moment.
Oui, même lieu, même thème, l'Europe et même orateur, Emmanuel Macron. En septembre 2017, il avait plaidé pour la souveraineté européenne. Cette fois, il a dramatisé d'entrée, vous l'avez entendu, notre Europe est mortelle. De quoi insister sur la nécessité d'une Europe puissance ? Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Vous êtes à la Sorbonne pour Inter, un discours fleuve qui vient tout juste de s'achever.
Oui, à l'instant, en effet, un discours davantage destiné aux diplomates qu'au grand public, entre la géopolitique des matières premières et le paradigme de croissance. Emmanuel Macron juge lui-même le moment dramatique pour l'Europe, il la juge mortelle.
Elle peut mourir si elle ne tient pas ses frontières et ne sait pas répondre aux risques extérieurs en termes de sécurité. Elle peut mourir si elle se met à dépendre des autres et elle ne peut pas produire pour créer ses richesses et les redistribuer. Mais elle est dans un moment où elle peut mourir d'elle-même. Parce que nous retrouvons ces moments où l'Europe pense son déclin, doute d'elle-même. À nouveau, notre Europe ne s'aime pas.
L'Europe qui ne s'aime pas. Elle a donc besoin d'un grand projet. Puissance, prospérité, humanisme. Voici les trois piliers qu'il développe devant un écran géant bleu marine. Puissance pour un emprunt européen qui financera l'industrie de l'armement pour faire face à la Russie désinhibée. La prospérité avec une nouvelle politique commerciale face à Pékin et Washington qui ne respectent plus les règles. Une Europe qui protège davantage ses frontières mais ne suivra pas l'exemple britannique du renvoi des migrants vers le Rwanda. Une banque centrale européenne qui prenne en compte l'objectif de décarbonation. Une Europe qui investisse massivement dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle notamment. Une Europe humaniste qui imposerait une majorité numérique à 15 ans. Aujourd'hui, on envoie nos enfants dans la jungle plusieurs heures par jour, dit Emmanuel Macron. Il avance en tout peu de mesures concrètes, à l'exception de celle-ci. Ce discours est une base de travail pour les futures institutions européennes et le Conseil de la fin du mois de juin.
Et a-t-il, Maxence, évoqué l'échéance du 9 juin prochain ?
Alors sa tête de liste n'est pas au premier rang, il n'y avait que des ministres, aucune allusion à sa candidate Valérie Ayé, mais des phrases à double sens.
Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Comprenez, l'heure du vote approche, n'allez pas vous perdre avec les populistes, j'ai besoin de votre soutien pour que ce discours porte du fruit.
Regardez les élections que nous avons aujourd'hui, ce sont autant d'élections nationales. C'est ça la réalité. Parce que nous n'avons pas de liste à travers le sol européen.
Des listes transnationales dont il avait parlé il y a 7 ans, mais qui n'ont jamais vu le jour. Nous n'avons pas tout réussi, admet-il en conclusion.
Maxence Lambrecq en direct de la Sorbonne avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. Un discours purement électoral pour les Républicains. Ces derniers souhaitent que ce temps de parole soit décompté de la campagne de Renaissance. La contre-attaque du RN, elle, est attendue cet après-midi. Jordan Bardella, qui a pris le large dans les sondages, dévoilera son programme. Le plein emploi, cher à Emmanuel Macron, ce n'est pas pour demain. France Travail, qui a succédé en début d'année à Pôle emploi, publie ses premiers chiffres du chômage et ils sont en demi-teinte. Maxime Debs, une légère baisse de 0,1% au premier trimestre qui cache une hausse sur un an.
Oui, qu'il est long hein, le chemin vers le plein emploi à ce rythme-là, Christelle. Moins 0,1% sur le trimestre qui vient de s'achever. Ça représente 3 200 personnes de moins au chômage en catégorie A. On peut y voir une satisfaction, mais alors une toute petite, hein, puisque si on prend de la distance, qu'on élargit le spectre, le chômage ne baisse pas, vous l'avez dit, bien au contraire, avec cette tendance qui reste à la hausse, plus 0,4% sur un an. On parle ici des Français qui n'ont donc aujourd'hui aucune activité. Ils sont un peu plus de 2 800 000, auxquels il faut ajouter les 2 300 000 qui composent au jour le jour, au mois le mois, avec des missions de durée plus ou moins longue, les contrats en CDD, les intérims. Alors on peut toutefois relativiser, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide après 2 trimestres de hausse consécutive. Cette légère baisse des chômeurs sans aucune activité communiquée ce matin est le signe d'un retour à une certaine stabilité, oui, mais encore une fois, dans ce contexte-là, la bataille du plein emploi est encore loin d'être gagnée.
Maxime Debs, un ciel un peu trop dégagé au-dessus des aéroports aujourd'hui, malgré un accord de dernière minute hier avec l'un des principaux syndicats des contrôleurs aériens. Les compagnies n'ont pas eu le temps de changer leur plan de vol. 2300 vols prévus contre 5200 hier. Alors, pas de pagaille. Et les voyageurs ont été prévenus pour la plupart, mais un point noir, Orly, où Myriam El Kurdi a rencontré Olga, 75 ans.
C'est la galère, mais bon, on nous a arrangé Pointe-à-Pitre, Paris et Paris-Nice. Et au lieu de faire Paris-Nice, on va faire Paris-Bastia et Bastia-Nice.
Donc là, vous arrivez de Pointe-à-Pitre, c'est ça?
Oui, on est parti à 6h du soir pour arriver ici à 8h du matin. Et donc là, maintenant, on a fait les démarches pour repartir à Bastia. Et puis ensuite, reprendre Bastia-Nice pour encore une heure de trajet. Et on arrivera à Nice à 16h30.
Alors que normalement?
Eh bien, à 10h30, on était à la maison, hein. Donc, c'est bien gentil, mais vous savez, des grèves, j'en ai jusque-là.
Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Sait-on cette fois plus précisément ce qu'ont obtenu les contrôleurs aériens et qui va payer la note?
Eh bien oui, on sait que les syndicats ont obtenu le retour de compensations salariales plus importantes par rapport à cette grande réforme du contrôle aérien. Primes gonflées et des engagements de la direction sur de vraies augmentations de salaire. Les syndicats demandaient notamment un changement d'échelon pour les fins de carrière qui compterait dans le calcul de la retraite. Tout cela n'est pas encore totalement signé, mais les discussions vont repartir sur de nouvelles bases. Alors, qui paiera? On a entendu dès hier, Christelle, le ministre des Transports préciser très clairement « cela ne coûtera rien à l'État ». Comment est-ce possible? Eh bien, car ce sont effectivement les compagnies aériennes via une redevance sur les billets d'avion qui financent le gros du budget des fonctionnaires de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Mais selon nos informations, le gouvernement, même s'il ne met pas l'État, même s'il ne met pas directement la main à la poche, a suivi ce dossier avec la plus grande attention ces dernières semaines, par crainte d'un effet boule de neige. Accorder beaucoup tout de suite aux aiguilleurs du ciel après ce qui a été accordé aux cheminots, c'était prendre le risque d'une contagion sociale à quelques semaines des JO. Sauf que laisser un conflit de cette ampleur s'enliser n'était pas non plus sans risque. La DGAC et derrière elle l'exécutif ont donc tranché.
Et vous parliez d'effet boule de neige du côté de la RATP. Les conducteurs de métro et de RER, FO et CGT majoritaires ont trouvé un accord ce matin sur une prime allant de 1600 jusqu'à 2500 euros durant les Jeux Olympiques. Cette grève-là n'a rien à voir avec les Jeux. Les cliniques privées appellent à une suspension totale des activités à partir du 3 juin, y compris pour les urgences. Elles demandent une réévaluation de leurs tarifs de 500 millions d'euros pour 2024. À quelle eau se vouer? La marque Perrier affirme avoir détruit 2 millions de bouteilles. Des traces de germes et de matières fécales y avaient été retrouvées. Une contamination des eaux souterraines sur le site de Vergès, dans le Gard, à la suite d'Inesley Waters, des fortes pluies du mois de mars. L'exploitation d'un puits est suspendue. Pour Ingrid Kragel, spécialiste de la sécurité alimentaire pour l'association de consommateurs Foodwatch, la confiance est largement entamée.
On est laissé totalement dans le flou et qu'on est face à une multinationale qui semble minimiser les faits et dont le discours consiste à dire « non mais vous inquiétez pas, tout va bien, continuez surtout à consommer nos produits ». Or, on doit objectivement constater que de semaine en semaine, toutes les informations qui nous parviennent sont toujours plus inquiétantes. Donc voilà, très compliqué pour les consommateurs de faire la part des choses face à cette désinformation de la part de la multinationale et face à un silence quand même assourdissant de la part des autorités françaises. Chez Foodwatch, on est sollicité tous les jours par des consommateurs inquiets et je peux vous dire que cette inquiétude maintenant s'étend à toute l'Europe puisque toutes ces eaux ont été vendues et commercialisées dans de nombreux autres pays qui pour l'instant eux aussi sont laissés dans le flou jusqu'à la réunion qui va survenir mardi 30 avril prochain à Bruxelles où la France va devoir s'expliquer face aux autres États membres.
À la réaction de l'association Foodwatch recueillie par Agnès Soubiran. À l'étranger, l'émotion et la colère ne retombent pas à Jérusalem. Quelques heures après la diffusion par le Hamas des images de l'otage américano-israélien Hersh Goldberg Pauline, un jeune homme de 23 ans, amputé d'une partie du bras gauche après avoir été blessé. Il évoque le sort des otages terrés qui manquent d'eau et de nourriture. De quoi déclencher des manifestations jusque devant la résidence du Premier ministre. Vous y étiez encore ce matin, Thibault Lefèvre.
Encore ce matin, l'odeur pestilentielle persiste.
Ils nous ont aspergés pendant la manifestation avec ce qu'on appelle en hébreu
un putois.
On criait dans les rues et ils ont décidé d'être violents.
Violents contre environ 200 jeunes de Jérusalem comme Odaya, la vingtaine. Elle est descendue spontanément hier soir après la diffusion de la vidéo.
Jérusalem est une ville communautaire et l'une de ces communautés, c'est les supporters d'un club de football.
De l'Hapoel Jérusalem, le club de gauche de Jérusalem.
Hersh appartient à cette communauté. Beaucoup de gens ici le connaissent, beaucoup de jeunes, et ça explique pourquoi il est plus visible.
Et puis, il y a les parents de Hersh, Rachel et John.
My name is Rachel, and this is John,
And we are the parents of Hirsch Goldberg Polen.
Qui ont appelé hier dans une vidéo les belligérants à revenir à la table des négociations. Et ils suscitent l'admiration des manifestants comme tard.
Wow, I don't even know what to say. It's very painful.
La jeune fille ne trouve pas ses mots et dit éprouver une profonde douleur.
Reportage Thibault Lefebvre, qui est notre correspondant à Jérusalem. Et en écho à ce qui se passe dans les grandes universités américaines qui dénoncent le sort des Palestiniens de Gaza, un site du campus de Sciences Po Paris a dû être évacué hier soir. Il était occupé par une soixantaine de militants pro-palestiniens. L'un des symboles de la capitale, privé de ses ailes, le Moulin Rouge, temple des cabarets à Montmartre depuis 135 ans, est défiguré. Ses ailes sont tombées en pleine nuit, bien après la fermeture, sans faire de blessés. Heureusement, la direction de l'établissement exclut un acte malveillant. Le Moulin Rouge, c'est le French Cancan. On venait s'y encanailler au début du XXe siècle. Il a été popularisé par le film du même nom avec Nicole Kidman. Alain Gastal, vous êtes sur place et ça nous donne une mesure de l'émotion.
Depuis ce matin, les équipes de télé et les photographes amateurs défilent boulevard de Clichy pour immortaliser cette scène. C'est du jamais vu depuis 1889. Le Moulin Rouge sans ses ailes, elles sont tombées à terre et avec elles, entraînées dans leur chute, les trois premières lettres géantes du célèbre cabaret parisien, qui n'est donc plus que le Lin Rouge quand il a entendu ça. Stéphane, patron d'un bistrot voisin qui vit à Montmartre depuis 50 ans, n'en a pas cru ses oreilles.
Et c'est tout un symbole, c'est comme la tour Eiffel qui s'écroule, quoi. Et heureusement, sans victimes. Quand j'ai vu les bandeaux annonces sur les chaînes Info, je me dis, elle est où la blague? On n'est pas le 1er avril et j'ai même pas eu le temps d'enfiler mon manteau, je suis descendu parce que c'est, voilà, c'est le quartier, c'est Montmartre, c'est le village et voir un peu ce qu'il en était. Et puis bon, bah, je suis arrivé, c'est comme une belle fille sans ses habits, quoi. Les ailes étaient parties, elles se sont envolées, elles vont vite revenir. Le Moulin Rouge, c'est une institution et comme toute institution, c'est qu'une mauvaise passe à passer.
Aucune explication à cette heure à la chute de ces ailes qui ne sont pas d'époque. Elles avaient été changées il y a une vingtaine d'années. Elles sont normalement contrôlées régulièrement. Le vent n'y est pour rien. Ce n'est pas un acte de vandalisme non plus. En attendant d'en savoir plus, le Moulin rouvrira dès ce soir. Le spectacle continue.
Et Rachida Dati, la ministre de la Culture, assure que la protection et la restauration de ce patrimoine est l'une de ses priorités. À propos de patrimoine, 5 euros pour visiter Venise à partir d'aujourd'hui. C'est une première mondiale pour endiguer le surtourisme alors que la saison débute. En France, le nombre de visiteurs est déjà plafonné dans les calanques de Marseille, par exemple. Au Mont-Saint-Michel, qui a vu passer près de 3 millions de personnes l'an dernier dans ses ruelles, Antoine Liffaut, on cherche aussi à réguler la fréquentation.
Un matin, 11h, au Mont-Saint-Michel.
Il y a vraiment beaucoup de monde.
Ce touriste est agacé par la foule.
C'est vrai que ça ralentit un petit peu la marche. Ouais, on profite pas trop du lieu. Faudrait mieux venir plus tôt ou alors hors saison touristique.
Venir plus tôt, éviter les périodes trop fréquentées, le Mont-Saint-Michel multiplie les campagnes de communication, régule les navettes selon l'affluence et selon Marion, conseillère à l'Office du Tourisme, ça marche.
Je pense que les gens, oui, prennent conscience qu'il faut arriver avant. On a souvent du monde dès 9h30 à l'ouverture de l'Office de Tourisme.
Un constat que ne partage pas du tout Julie, guide ici depuis plusieurs années.
Bah là, actuellement, on est dans la rue principale. On est un petit peu coincés les uns entre les autres parce qu'il y a beaucoup trop de personnes en fait, qui viennent ici. On n'est pas sur un record aujourd'hui, mais on sait très bien qu'au mois de mai, s'il y aura encore plus d'influence, de mettre peut-être en place des jauges, ça, ce serait le plus intéressant.
Alors, il y a déjà une forme de jauge.
Le directeur adjoint de l'établissement public, Aymeric Chauchat.
Avec le nombre de places de stationnement, aujourd'hui, on a à peu près 5000 places de stationnement. Et ça, il y a un certain nombre de jours dans l'année où les parkings sont pleins. Et donc, on considère que aller au-delà de ça, c'est pas forcément ni souhaitable, ni vraiment nécessaire.
Des places de parking réservables seront disponibles aux heures les moins visitées à partir de mi-mai.
Un reportage Antoine Liffaut de France Bleu Cotentin. 1 milliard d'écoutes en moins d'une semaine, décidément. Taylor Swift est la femme de tous les superlatifs. Son 11e album, The Tortured Poets Department, est sorti vendredi sur la plateforme Spotify. En France, Aya Nakamura pourrait être sacrée reine de la cérémonie des Flammes ce soir au Châtelet. Cette cérémonie qui célèbre le rap et ses courants musicaux. Elle est nommée 6 fois. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde pourrait entrer sur l'hymne à la joie d'Edith Piaf. Un clin d'œil à ce qui pourrait se passer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà, il est 13h19 sur Inter et c'est le moment de vous retrouver, Jérôme, au Lavandou où la mer avance.
Exactement, ce ne sont pas les mêmes marées qu'au Mont-Saint-Michel où nous étions avec vous il y a quelques minutes, mais enfin ici aussi l'érosion côtière est évidemment une préoccupation. On va en parler dans ce 13-14 sous le soleil du Var. La météo d'ailleurs est à suivre.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle.
Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Jusqu'au centre-Val de Loire, à l'Auvergne et à l'Occitanie, on a un ciel encombré avec quelques averses, plus nombreuses sur un grand quart sud-ouest. Il neige au-dessus de 1500 mètres sur les Pyrénées. De la Normandie vers le bassin parisien, les Hauts-de-France et le nord-est, là aussi quelques averses possibles, mais des éclaircies encore appréciables. C'est du soleil vers la vallée du Rhône, les Alpes, la Provence, la Corse. On n'oublie pas le vent du Var à la Corse, hein, jusqu'à 70 km à l'heure attendue. Les températures remontent progressivement. Elles restent souvent 3 à 5 degrés sous les moyennes de saison. Comptez 12 à 15 degrés cet après-midi, 16 à 19 en Méditerranée, 18 du côté du Lavandou. Et puis demain, il fera moins froid, les gelées se limiteront au massif, mais il faudra composer avec des averses.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Notre 13-14 est sur le terrain aujourd'hui et nous avons choisi de parler de l'érosion côtière. Le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines qu'il préparait un plan d'action avec les 500 communes de France les plus concernées, celles du Lavandou, où nous nous trouvons en fait partie et nous sommes en compagnie du maire du Lavandou, Gilles Bernardi. Bonjour.
Bonjour et bienvenue au Lavandou.
Merci de nous accueillir dans votre commune. Maire Les Républicains du Lavandou depuis une trentaine d'années, vous êtes l'un de nos élus qui connaissait le mieux ce sujet puisque vous êtes également vice-président de l'Association nationale des élus des littoraux. Est-ce que vous pouvez, Gilles Bernardi, nous décrire le cadre dans lequel nous nous trouvons ici sur la plage du centre-ville de votre commune ?
Très volontiers, parce que c'est un cadre idyllique, hein, avec une mer magnifique aujourd'hui. Au large, nous avons les îles de Port-Cros et du Levant. Nous avons à l'est le Cap Nègre, à l'ouest le Cap Bénat et devant nous la mer avec un fin ruban de sable. Le Lavandou qui compte 12 plages différentes. Toutes ces plages ont une couleur, une granulométrie différente. Donc on a vraiment un kaléidoscope de plages pour l'été.
On est tout près de l'eau, on entend d'ailleurs le bruit de la mer derrière le micro de France Inter. Vous dites un fin ruban de plage, là où on se trouve, effectivement, la mer est à 3-4 mètres. Là-bas, un petit peu plus à gauche, vers l'est, il y a beaucoup plus de sable. Mais vous avez constaté au fil des années, monsieur le maire, que la mer progressait, avançait ?
Alors, la montée des eaux, d'une part, ensuite, enfin, ce qu'on appelle maintenant le trait de côte qui évolue, oui, nous avons constaté qu'il y avait une évolution qui n'est pas nouvelle, qui nous a permis de non seulement d'étudier ces problèmes-là, de trouver des parades, d'expérimenter aussi des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, mais surtout de nous accoutumer au fait que il va falloir travailler avec l'État, nous le faisons déjà, avec beaucoup de succès d'ailleurs, et nous faisons en sorte que la loi climat et résilience soit aussi prise en compte sur notre littoral. Le sable. Notre économie repose entièrement sur le sable.
C'est ça. C'est-à-dire que là, le sable, il n'y en a quasiment plus. À l'endroit où on se trouve, plus de sable et moins de plages dans votre commune, ça signifie quoi, concrètement ?
Alors, ça signifie que ce n'est pas envisageable et qu'il va falloir mettre en œuvre non seulement ce que nous avons déjà fait, donc quelques récifs artificiels. Ça marche déjà à l'est de ma commune.
C'est pas envisageable, parce que économiquement, c'est le poumon de votre commune et de toutes celles du littoral,
Dans le Var. C'est pas seulement notre économie, c'est l'ADN. Hein. Le Lavandou sans ses plages, non, c'est plus le Lavandou. Donc nous faisons tout pour que ces plages conservent et leur profondeur, et leur altimétrie, et leur linéaire. Et déjà, ce que nous avons mis en place nous permet d'espérer. Donc tout n'est pas perdu, vraiment, c'est pas le cas. Et l'érosion se fait présente ou prégnante sur quelques endroits de notre commune. Simplement, il faudra mettre en œuvre ce que l'État demande maintenant avec sa loi climat, c'est-à-dire lorsqu'on peut reculer, lorsqu'on ne peut pas, trouver des moyens techniques qui permettent de préserver ce sable.
L'État, justement, représenté par Laurent Boulet. Bonjour, monsieur Boulet.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de la DDTM, la Direction des Territoires et de la Mer. Donc, votre service représente l'État dans le département. Quand, moi, j'expliquais à des proches, je dis, on va dans le Var pour parler de l'érosion côtière, ou quand on l'a expliqué, d'ailleurs, à France Inter, beaucoup nous ont dit, mais L'érosion côtière, c'est surtout sur la côte atlantique. Et puis, il y a ce chiffre qui est sorti il y a quelques semaines. Plus de 400 logements menacés dans ce département du Var d'ici 2050. Ça en fait le département le plus exposé de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurent Boulet ?
Tout à fait. On a une vision, en général, que la côte atlantique est la plus touchée. En réalité, sur le pourtour méditerranéen, l'érosion est une réalité. Elle est prégnante et ça implique d'ailleurs de travailler au jour le jour avec les élus sur comment se comporter. Il est évident qu'il est hors de question de tout bétonner, de protéger en dur. La richesse, comme l'a dit le maire du Lavandou, c'est aussi ses plages, sa qualité, mais c'est aussi pour nous une importance en termes de biotope, de qualité, d'importance aussi de l'aspect marin. Et donc, on les accompagne pour réfléchir à des stratégies. Des endroits, il faut effectivement protéger en dur, mais beaucoup de laisser la nature aussi faire et accepter que ça recule.
On sera au Vieux Salin dans quelques minutes près d'hier, où là on peut laisser, aller et venir la mer, puisque c'est un espace naturel. Ici, on le voit, il y a des résidences, il y a un restaurant, les gens sont en train de déjeuner à quelques mètres de nous. Ça, c'est la particularité de cette côte, Laurent Boulet. La mer est derrière tout de suite, les activités humaines sont là.
C'est pour ça qu'il y a une différenciation dans les postures. Lorsqu'il y a l'habitat juste à proximité ou lorsqu'il y a des possibilités de recul, les règles sont différentes. La réglementation permet de différencier, mais il est hors de question de dire qu'il y a de l'habitat partout. C'est vraiment, il faut une très forte densité humaine pour qu'on accepte du dur. Ailleurs, non. Et il faut aussi un accompagnement qui soit pas que du béton ou de l'enrochement, mais si possible d'autres dispositifs qui peuvent limiter l'impact.
Le phénomène s'est accéléré ces dernières années. Quelle en est la cause, Laurent Boulet ? C'est le réchauffement climatique qui vient impacter les activités humaines, dont nous sommes responsables d'ailleurs ?
L'érosion, les mouvements hydrosédimentaires, il y en a toujours eu. Là, depuis une, deux décennies, on ressent très très nettement l'effet du réchauffement climatique, avec une montée des eaux, avec des phénomènes plus violents aussi. Et donc, la nécessité de s'adapter. S'adapter, ça veut dire aussi prévoir des constructions au titre de l'urbanisme plus loin, accepter du recul en certains points. C'est pour ça que le travail est mené par les collectivités, incité par l'État, à avoir des stratégies. C'est qu'est-ce qui lancera en 2030, qu'est-ce qui lancera en 2050, qu'est-ce qui lancera dans 100 ans, où on protège, où on laisse évoluer et comment on repense sa commune.
Vous avez employé le mot de construction, Laurent Boulet. On va s'intéresser au logement parce que évidemment c'est une préoccupation qui pour tous ceux qui habitent en bord de mer. 430 logements menacés par l'érosion ici, d'ici 2050 selon les prévisions du CEREMA, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité, l'aménagement qui a rendu ce rapport extrêmement commenté depuis quelques semaines. Les maisons ou villas avec les pieds dans l'eau se comptent par centaines sur le littoral varois. Bonjour François Ventéjou.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous sillonnez ce département depuis deux jours pour Inter. Vous êtes rendu notamment, François, à Cavalaire-sur-Mer. C'est à une demi-heure de route d'ici, du Lavandou, direction Saint-Tropez. L'érosion commence à y devenir une source d'inquiétude pour les propriétaires.
Oui, pour aller dans la maison de Christelle, par exemple, il faut emprunter le sentier côtier, marcher plusieurs dizaines de mètres.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, c'est paradisiaque.
Paradisiaque car de sa terrasse, elle a une vue imprenable sur la Méditerranée.
Tous les matins, donc, on voit cette immensité, cette mer qui est magnifique, qui est reposante, un cadre idyllique. Et la mer, le problème, c'est qu'elle se rapproche de plus en plus de la villa.
Désormais, seulement une dizaine de mètres les séparent de l'eau, ce qui n'a plus rien à voir avec la situation à la fin des années 90.
Bah avant, en fait, donc on ouvrait le portail, on sautait depuis les rochers et on avait la plage. On traversait quelques mètres et on allait se baigner un peu plus loin. Et là, de plus en plus, donc il n'y a plus de plage.
Christelle et son mari le savent, leur maison sera en sursis à moyen terme. Et pourtant, ils ont fait le choix d'entièrement la rénover il y a 5 ans.
On avait vraiment un cahier des charges très, très important de la part de la mairie. Et donc, on a un vide sanitaire. Donc comme ça, l'eau peut passer en dessous de la maison. Il nous fallait un bassin de rétention. Donc on a également, parce que c'était demandé dans le cahier des charges.
Habiter en bord de mer, ça veut souvent dire des frais supplémentaires. David Garavagno est le vice-président de la Fédération nationale de l'immobilier dans le Var.
On peut avoir un problème côtier, on peut avoir un problème d'eau, on peut avoir un problème de roche. Donc évidemment, les travaux ne sont pas les mêmes. Et là, on fait appel à des bureaux d'études. On peut faire les travaux qui vont bien en espérant évidemment pouvoir obtenir un sursis le plus long possible sur ces endroits-là.
Ce contexte pourrait refroidir les nouveaux acheteurs. Et pourtant, ces maisons avec les pieds dans l'eau ne connaissent pas la crise.
Ces biens dits d'exception sont peu ou pas affectés, il faut dire les choses clairement. Donc à ce stade, pas de sujet, mais il n'en demeure pas moins que chaque vente nécessite un état des risques naturels qui est remis à l'acquéreur, qu'il soit en parfaite connaissance de cause sur ce qu'il achète.
Et en plus de l'érosion dans le Var, beaucoup de maisons sont sujettes aux feux de forêt.
Merci François Ventéjou pour ce reportage. On va vous retrouver dans quelques minutes. Une réaction, Gilles Bernardi, à ce reportage. François nous dit, et ses interlocuteurs, mais les gens, ils continuent à vouloir acheter ces maisons en bord de mer. Le prix ne baisse pas. Il y a toujours l'envie de venir habiter au plus proche de l'eau. Vous le constatez, ça aussi ?
Oui, on le constate, mais bon, ça s'est un peu ralenti parce que quand même, les gens commencent à comprendre que la mer monte. Les médias ont été des alliés très précieux, d'ailleurs, pour véhiculer cette pensée-là, cette évolution. Et donc, il y a quand même une petite réticence à acheter des maisons les pieds dans l'eau, lorsqu'on sait que bientôt, on aura l'eau jusqu'aux genoux et peut-être au-dessus. Donc ça s'est ralenti quand même.
Mais ça, c'est une particularité. Les communes littorales comme la vôtre, le Lavandou, c'est 4% de la surface du pays, mais c'est 10% de la population, et c'est x2 ou x6 en été. Donc on a un espace qui se réduit, mais il y a de plus en plus de gens qui veulent venir y habiter.
Oui, mais c'est une tendance, hein, puisque déjà on pense qu'il y a 40% de la population française qui prend ses vacances sur les plages. Donc il y a une volonté de venir passer son temps d'été ici et aussi d'acheter un appartement ou une maison. Donc il y a une demande forte. Mais maintenant, les choses ont changé dans les prises de conscience, dans les prix aussi. Notre problème à nous, il est très simple, si on parle que de l'habitat, hein, c'est que comment laisser faire une transaction alors qu'on sait que la maison sera peut-être dans l'eau dans 10 ans, 20 ans. La responsabilité d'une collectivité, lorsque elle a la connaissance que le phénomène, par endroit, encore une fois, se précise. Je dis bien, c'est pas partout, c'est pas linéaire.
Oui.
Chaque baie est traitée d'une manière un peu différente, au cas par cas. Chaque plage a sa dynamique. Il y a des règles qui sont propres, M. Boulet l'a rappelé, mais ensuite il y a une évolution. Alors, c'est pas tellement le bâtiment qui nous inquiète, qu'il y ait des bâtiments construits trop près de l'eau dans les années 60 et qui maintenant sont rejoints par la mer, c'est une chose. Ce qui nous préoccupe surtout, essentiellement, c'est les plages. C'est notre environnement, notre ADN, notre économie, c'est le sable. Là, il y a un impact économique et financier qui est colossal.
Alors, parmi les solutions avancées, il y en a plusieurs. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est fait ici ces dernières années. Là, on a sous les yeux, Laurent Boulet, encore des enrochements. Il y en avait beaucoup plus il y a quelques années. Aujourd'hui, vous dites, vous, l'État, il faut arrêter avec les enrochements, il faut les enlever.
Tout à fait. Ce sont des solutions qui ont des impacts d'un côté, mais qui peuvent avoir des impacts négatifs de l'autre côté. Ça bloque le sable, ça empêche le mouvement. Donc au final, il y a du gagnant à un endroit et du perdant de l'autre. Donc on préconise des solutions déjà moins importantes, plus réfléchies. C'est pour ça qu'on demande à ce que les collectivités mènent des études de long terme pour voir quels sont les impacts positifs et négatifs sur le sable, sur aussi le milieu marin, parce que c'est important pour nous, et que ça fasse l'objet d'échanges fructueux entre nous. Et après, lorsque l'étude aura été menée à terme, on validera ou on ne validera pas les aménagements, qui sont souvent des aménagements qu'on souhaite plus doux.
Donc cette avancée artificielle de rochers, là, vous conseillez à Monsieur le maire de l'enlever, concrètement?
Ça fait partie des aménagements qui, aujourd'hui, ne seraient plus autorisés.
Monsieur Bernardi, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous souhaitez le faire?
Alors, l'étude qui a été menée sur cet enrochement avec un récif artificiel en géocorail qui va être expérimenté. L'autorisation n'est pas délivrée. Les études, par contre, sont rassurantes. Mais encore une fois, il s'agit là d'une érosion très proche de la route et du péré.
Ah oui.
Donc, et sur un linéaire relativement court, puisque sur les 12 km de sable que nous avons pour ma commune, ça représente quoi ? 200 mètres, là. Là, on est vraiment sur un épique phénomène. Mais nous avons d'autres solutions beaucoup plus souples, traditionnelles.
Vous pouvez nous parler des pieux qui sont juste devant nous, vous avez fait enfoncer dans le sable ?
Oui, alors contrairement à ce que peuvent imaginer les gens qui passent, ce ne sont pas les prémices d'un parc à moules. Non, pas du tout.
C'est ce qu'on vous dit des fois.
Ben oui, non, pas du tout. On a piqué cette idée sur d'autres littoraux. On a expérimenté la plantation de pieux pour briser la houle. Alors, avant, il y avait quoi ? Il y avait des sacs en géotextile. On sait très bien que le géotextile, ça peut se dégrader, que ce n'est pas la solution. On a enlevé ces sacs. Maintenant, on expérimente ces pieux. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, ça n'engraisse pas la plage, mais ça la stabilise. Donc, des solutions existent, simples et peu coûteuses.
Et vous l'expliquez aussi aux nombreux visiteurs qui peut-être ne comprennent pas, parce qu'il y a des panneaux explicatifs pour dire voilà pourquoi on a mis ces pieux, parce qu'évidemment, là où il y a des pieux, on peut pas mettre sa serviette, c'est bien évident, mais et vous avez fait ce choix-là pour éviter que la mer ne continue de progresser. Je voudrais qu'on revienne sur ces enrochements, parce que c'est vrai qu'ils sont devenus au fil des années un élément incontournable du paysage français, mais ça n'est plus la tendance, et vous nous l'avez dit, Laurent Boulet, il y a quelques minutes, et je l'ai constaté hier au Vieux Salin, toujours dans le département du Var, un espace naturel protégé, nous sommes sur la commune de Hyères, 260 espèces d'oiseaux y trouvent refuge, et j'y ai retrouvé Sophie Séjalon, c'est la déléguée régionale adjointe du Conservatoire du Littoral. Elle accueillait hier sur place un groupe d'études venus de tous les pays d'Europe.
Bonjour. Oups là, je vais essayer de pas tomber. Bonjour, vous êtes Madame Séjalon.
Oui, c'est ça.
Bonjour, il y a beaucoup de monde avec vous.
Il y a une vingtaine de personnes. C'est un groupe d'Eurosites, c'est en fait une fédération de gestionnaires d'espaces naturels au niveau européen.
Ils font la même chose que vous, mais dans d'autres pays d'Europe.
Voilà, exactement. Et là, ils travaillent sur un thème bien précis qui est l'adaptation au changement climatique.
En quoi cet espace est intéressant à mettre en valeur? Je vous voyais discuter avec Paul, qui vient des Pays-Bas, c'est ça? Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez lui expliquer de ce qui est fait ici?
En fait, cet espace, il a d'intéressant, et c'est pour cela qu'on accueille plusieurs groupes étrangers ici, ailleurs au Vieux-Salin, c'est que c'est un exemple démonstratif de ce qu'apporte la renaturation du trait de côte.
Renaturation, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà. Bien, en fait, ça veut dire qu'on avait ici une digue, un empierrement.
Ici, là, sur la plage, là, qui est à notre gauche.
Qui avait été construit à l'époque par la compagnie du Salin du Midi, quand ils étaient propriétaires de ce salin.
Ils exploitaient le sel juste à droite, là.
Ils exploitaient le sel à l'arrière, et ils avaient construit cette digue tout simplement pour protéger leur outil de production salinière. Le Conservatoire du Littoral a racheté l'ensemble du salin en 2001 et il n'y avait plus d'utilité de protéger un outil de production salinière, puisque ce qui est fait par le Conservatoire du Littoral et son gestionnaire, qui est la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, c'est de protéger ce site.
Et sel n'est plus exploité.
Le sel n'est plus exploité. Et donc les enjeux ne sont plus les mêmes. On n'a plus besoin de défendre le site par rapport aux entrées de mer. Donc, par ailleurs, le problème des enrochements, des digues, quelles qu'elles soient, des épis, quels qu'ils soient, ou même des ports, c'est que ces ouvrages en dur créent des barrières par rapport aux sédiments qui ne peuvent plus circuler comme par le passé. Et ça crée ce qu'on appelle des loupes d'érosion sur le littoral.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que, en fait, la mer, déjà, ne va plus pouvoir transporter les sédiments, donc elle va buter contre un obstacle. Et donc, à l'arrière d'un épi, par exemple, on ne va plus avoir de sable qui va arriver et on va avoir une plage en constante érosion.
Ça veut dire que quand on met des enrochements comme cela, la mer finit de toute façon par aller à un autre endroit et à grignoter à un autre endroit, le littoral?
Exactement, et c'est là tout l'enjeu en fait, c'est qu'à l'époque, dans les années aménagistes, des années 60, les années 80, on ignorait cela. Or aujourd'hui, on revient un petit peu sur cet esprit aménagiste, parce qu'on se rend compte qu'un aménagement va avoir un effet de protection des enjeux qui sont en arrière, les enjeux humains, mais par contre il va aggraver les problèmes en aval.
Alors on est sur ce chemin entre la mer Méditerranée à notre gauche, les salins à notre droite, il y a les voiles des kitesurf, des champions qui sont en pleine qualification, tentative de qualification pour les JO, c'est un décor formidable. Vous nous dites, on a enlevé des roches, pas grave si ça grignote un peu finalement. Est-ce que vous tiendriez le même discours si ici il y avait des habitations, des logements, des entreprises, des activités?
Pas forcément, évidemment. En fait, à chaque lieu, sa particularité. Il faut vraiment tout analyser. Par contre, s'il n'y avait que deux habitations, je tiendrais le même discours. Tout dépend vraiment de la teneur des enjeux et de l'immensité des enjeux qu'il y a à protéger. Ce n'est pas parce que je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas parce qu'il y a un hôtel qu'il faut absolument le défendre, parce qu'on risque, au contraire, en voulant défendre un hôtel, d'en mettre trois en danger, parce qu'on va aggraver l'érosion en aval de la protection que l'on aura installée.
La plage est à quelques mètres derrière nous, il y a une plage des nudistes d'ailleurs, mais ça veut dire, Sophie Séjalon, que cette plage, elle s'est agrandie ces dernières années, que les habitants ici, ils en profitent davantage?
Oui, tout
tout à fait. Donc la plage s'est agrandie à l'ouest et elle s'est un petit peu amincie, amoindrie, là où il reste encore des enrochements, puisqu'on a une loupe d'érosion qui s'est formée.
Toujours des enrochements.
On a laissé des enrochements sur 200 mètres. Il
Pourquoi
y en avait 800 mètres. On en a laissé sur 200 mètres parce qu'il y a une forêt en arrière de ces enrochements et que les élus, les habitants souhaitaient préserver cette forêt. Donc on a décidé de les laisser. Je dirais qu'on les a laissés temporairement. Voilà. Ce n'est pas définitif.
Voilà, toujours ces discussions. Faut-il laisser ces digues faites de roches ou les enlever? Elles ont été enlevées donc partiellement hier, pas très loin d'ici, au Lavandou, où nous nous trouvons pour ce 13-14 spécial sur le terrain avec des touristes. Ce sont les vacances ici qui continuent de déambuler. Pas de baigneurs, mais une famille de canards qui est passée derrière nous il y a quelques minutes. Et du soleil ici dans ce département du Var. Nous sommes déplacés de quelques mètres avec nos invités. Gilles Bernardi, le maire du Lavandou, toujours avec nous, qui nous accueille depuis 13h. Laurent Boulet de la direction des territoires et de la mer ici dans le Var. Et on a retrouvé tout près du poste de secours où nous sommes maintenant Sébastien Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur au bureau d'études Corinthe, situé dans ce département du Var.
Tout à fait. Notre bureau d'études est basé à Grimaud.
Vous conseillez les collectivités locales qui font face à l'érosion côtière. Vous leur apportez des solutions. C'est ça votre travail?
Tout à fait, oui et non. En fait, on étudie les problématiques. Notre métier, en fait, c'est de faire de la modélisation, de faire une recherche, on va dire, scientifique et une approche scientifique des phénomènes d'érosion, de submersion. Et après, d'appliquer des solutions techniques telles que des solutions techniques qui existaient déjà ou des solutions techniques innovantes et qui sont de plus en plus demandées aujourd'hui.
Je suis maire d'une commune, je viens vous voir et vous pouvez faire la carte de ma commune et me dire dans 10, dans 20 ans, voilà à quoi ça va ressembler, voilà ce qui sera peut-être un peu sous l'eau, voilà ce qui est menacé.
Tout à fait. Alors, nous, notre métier, c'est effectivement de travailler à une échelle beaucoup plus locale. Il y a des grands organismes connus tels que le BRGM ou le CEREMA qui travaillent à échelle, l'État, qui travaille à échelle régionale et qui déjà fournit pas mal d'éléments
données,
de base et de données et qui permet aussi d'orienter certains choix. Et nous, on va travailler vraiment au niveau beaucoup plus local et avec la possibilité de regarder plus en détail les solutions à mettre en place.
Les demandes explosent depuis quelques années, vous êtes de plus en plus sollicité.
Alors oui, sur les sujets justement de problématiques d'aléas et de risques. Notre métier à la base, c'est le génie côtier et portuaire. Donc en fait, c'est du génie civil, c'est du dimensionnement d'ouvrages, de digues. Mais de plus en plus aujourd'hui, on est sollicité sur des problématiques d'aléas submersion, aléas érosion.
Alors pour parler des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On voit qu'il y a une partie de la plage là-bas sur la gauche, il y a encore beaucoup de sable et plusieurs dizaines de mètres. Mais ici, il n'y a plus que quelques mètres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que cette plage ne disparaisse totalement dans les années qui viennent, cette partie de plage?
Alors en l'occurrence ici, donc le dispositif expérimental qui est mis en place, il a pour but en fait de diminuer l'énergie de la houle qui vient impacter la plage.
C'est quoi ce dispositif?
Donc le récif et qui est couplé également avec les pieux qui viennent stabiliser.
Alors les pieux, on en a parlé, le récif c'est quoi?
Un récif artificiel peut avoir deux fonctions. Une fonction biologique, ça peut reconstituer un habitat pour la faune et la flore marine.
Mais ça veut dire qu'on va mettre un récif sous l'eau, c'est ce que vous nous dites?
Alors ça, c'est faisable.
Ça, c'est une possibilité.
Tout à fait. Ça fait partie des techniques qui peuvent être employées de manière à faire briser la houle avant qu'elle n'arrive sur la plage et qu'elle ait un pouvoir érosif plus important.
On met quoi sous l'eau, concrètement?
C'est une structure qui va être dimensionnée avec une hauteur d'eau, un tirant d'eau au-dessus qui va être dimensionnée en fonction du type de houle, de la hauteur de houle, etc.
D'accord.
Qu'il peut y avoir dessus.
Donc combien de mètres d'eau concrètement au-dessus de cette structure?
Ça peut dépendre, mais c'est de l'ordre de 1 mètre.
1 mètre, donc c'est quasiment à la surface.
Voilà,
1 mètre sous la surface.
En dessous
et c'est quoi? C'est du métal? C'est de la roche?
Alors il y a plein de techniques. Tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement les géotextiles. Donc ça, c'était des géotubes qui étaient remplis avec du sable.
Alors on va y venir.
Il peut y avoir des structures. Ça peut être aussi de l'enrochement, c'est-à-dire comme un épi, mais qui va être construit sous l'eau, avec de l'enrochement sous l'eau. Ça peut être des structures plus complexes. Qui peuvent être aujourd'hui, il y a des expérimentations qui se font aussi sur des structures en béton imprimées en 3D et qui permettent à la fois de faire donc de l'habitat, reconstituer de l'habitat et faire un récif pour faire briser la houle. Et donc de plus en plus, voilà, il y a pas mal de dispositifs expérimentaux qui sont testés.
Et ça, ce type de récif, c'est loin de la plage là où on se trouve?
Non, en général, en tout cas ici, par rapport au type de boule qu'on a, on est par des profondeurs de l'ordre de 4, 5, 6 mètres.
Quoi. D'accord, mais c'est loin d'ici ?
Non, on est à
une centaine de mètres. Il n'y a pas de problème pour la flore et pour les poissons ?
Il y a justement à faire attention aux herbiers qui sont protégés et on évite justement de construire sur les herbiers type herbier de Posidonie, Zoster, Cystoser. Et donc ça, on travaille aussi main dans la main avec des écologues et des spécialistes pour pouvoir justement faire le mieux possible.
C'est un dispositif, Laurent Boulet, que vous validez à la direction des territoires et de la mer. Est-ce que vous devez dire oui à chaque maire qui dit « moi, je veux faire ça dans ma commune » ? Est-ce que ça passe par votre imprimature ?
Systématiquement, ça passe chez nous.
D'accord.
On regarde.
Si vous dites non, ça ne se fait pas.
Tout à fait. Okay. Plusieurs angles.
Vous dites oui à ça ?
Alors, on regarde au cas par cas. Première règle, effectivement, la Posidonie. Pour nous, c'est essentiel, avec plusieurs
missions. Plante aquatique.
Plante aquatique, une herbe aquatique qui est indispensable à la vie du biotope, mais qui aussi permet de stabiliser le sable.
D'accord. Ok.
Deuxième aspect, son implantation. On a quand même des bateaux. Il y a hors de question que ça devienne un danger sur le plan d'eau.
Oui, parce qu'un mètre de tirant d'eau, bon.
Donc il faut faire attention où c'est positionné. Okay. Faire attention aussi à ce que ce soit bien placé par rapport au déplacement sédimentaire du sable dans l'eau. Donc on demande aux prestataires de la commune, donc au bureau d'études, de nous faire une étude détaillée sur, non pas la plage, mais sur tout un linéaire pour voir l'impact, s'il est positif ici, qu'il ne soit pas négatif, 500 mètres plus loin.
Est-ce qu'on peut réensabler les plages aujourd'hui ? Est-ce que c'est autorisé ça ? Un maire, je veux remettre du sable parce que j'en ai plus beaucoup. Est-ce que j'ai le droit ?
Ça peut être autorisé dans des conditions particulières. C'est pas la solution idéale. L'idéal, c'est de laisser faire la nature. Dans des cas très contraints comme ça, ça peut l'être, mais avec des conditions très drastiques. De sable qui vient de mer, qui ne comporte pas de polluants, ainsi de suite, et avec une vision aussi qui regarde comment on ne... Par exemple, il y a la Posidonie, il ne faudrait pas que le sable aille enterrer la Posidonie, enterrer de la vie aquatique.
On sait faire, c'est ce que vous nous dites, Sébastien Bernard, combien ça coûte, un dispositif comme ça ?
Ouais, ça dépend du linéaire de plage qui est concerné, donc ça peut être quelques millions d'euros, ça peut être quelques centaines de milliers d'euros, ça dépend.
Ça dépend. Et qui est-ce qui paye ? C'est vous, Monsieur Bernardi, et vos contribuables, et les citoyens du Lavandou, la commune dont vous êtes le maire ?
Tout le monde, c'est un peu tout le monde. C'est la taxe de séjour, donc les visiteurs aussi.
C'est moi qui ai dormi là la nuit dernière.
Oui, voilà. Il y a aussi de la région, il y a l'Europe, il y a il y a la DIRM, il y a les fonds de l'État. Donc là, nous sommes aidés. L'idée, c'est de mettre en œuvre une série de mesures qui s'appuie essentiellement sur le génie biologique. Voilà. Et M. Boulet parlait tantôt de la Posidonie. Ça, c'est essentiel. C'est pour ça qu'au Lavandou vient de se terminer aujourd'hui même une enquête publique pour protéger l'herbier de la Posidonie en rade de Cavalière, commune du Lavandou, sur 82 hectares. Et si cette enquête publique est positive, dorénavant, on pourra continuer à aller avec son bateau dans la rade de Cavalière, mais au lieu de jeter l'ancre et de risquer d'abîmer notre herbier, on s'amarrera sur des bouées dédiées pour cette action-là.
Il faudra donc respecter cet amarrage et ne pas le faire n'importe où. Ça, c'est la règle qui va rentrer en vigueur. On parle des solutions, on parlait de ce récif. Avec vous, Sébastien Bernard, vous avez parlé de ce mot barbare, de géotube. Et on nous en parle beaucoup depuis quelques jours. On a voulu savoir à quoi ça correspondait exactement. François Vintéjou, je me retourne vers vous parce que vous avez continué de sillonner ce département du Var. Géotube, des gros boudins en textile qu'on va mettre au large. Comment ça fonctionne ? Vous êtes allé voir ça dans le golfe de Saint-Tropez ?
Oui, pour les apercevoir, il faut regarder au large à 80 mètres du rivage. Depuis un ponton, le maire de Sainte-Maxime, Vincent Maurice, les montre du doigt.
On voit une tache brune qui est posée sur le sol. Ce sont des tubes en textile remplis de sable qui forment des boudins de 3,5 mètres de diamètre. C'est l'image du croche-patte aux vagues, c'est de casser l'énergie de la vague sous-marine afin qu'elle ne ramène pas le sable avec elle.
Un dispositif installé ces derniers mois pour préserver cette plage de la Croisette. Actuellement, à certains endroits, on peut difficilement poser plusieurs serviettes.
Le premier objectif, c'était d'enrayer l'érosion. Il va nous falloir quelques années pour observer le phénomène, mais c'est le premier objectif. Ensuite, peut-on espérer du rengraissement naturel ? Ça a été calculé pour mais on va pas mettre la barre trop haute parce que la nature, elle est quand même assez incontrôlable.
Une nature qui va abîmer, éroder ces tubes en textile et les conséquences sur l'écosystème marin ne sont pas anodines pour Henri Bonhomme. Il est le président de France Nature Environnement dans le Var.
Ces tubes vont d'abord s'amincir et s'ils s'amincissent, ça signifie qu'il y a de la matière qui va partir en mer sous forme de micropolluants. Et évidemment, ces micropolluants, directement, seront à la disposition des poissons qui vont pouvoir les absorber. On va le retrouver, tout ça, dans la chaîne alimentaire.
Un impact connu par la municipalité, mais pour préserver ce qui fait l'attractivité de Sainte-Maxime, c'est la moins pire des solutions à court terme.
C'était inéluctable et inévitable, parce que derrière l'économie qui est générée par une plage comme celle-là, elle ne se calcule même pas, puisque c'est le rayonnement de la commune et ces plages. Il n'y a pas que l'effet financier. Même si c'est un investissement colossal, il n'y avait pas d'hésitation à avoir.
Le montant, c'est 10 millions d'euros aux frais de la communauté de communes pour ces 4 géotubes. Leur durée de vie est estimée entre 5 et 10 ans.
4 géotubes, 10 millions d'euros pour la communauté de communes de Saint-Tropez. Je reviens au nerf de la guerre. Gilles Bernardi, vous qui êtes le maire du Lavandou, vous allez faire partie des 500 communes, ça n'a pas encore été dévoilé, mais on peut le dire, les plus concernées par l'érosion côtière. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a dit qu'il y aurait des contrats de passer entre l'État et vos communes dans quelques semaines. Est-ce que vous savez déjà ce que ça va impliquer pour vous et ce que ça peut vous apporter?
Alors, ça nous apportera que du bon, parce que finalement, si l'État nous aide à préserver notre littoral et nos plages encore, eh bien, ça sera que du bonheur. Mais c'est pas le problème, l'argent. Hein. C'est pas l'investissement qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est la rapidité de ce phénomène et aussi les mentalités, c'est-à-dire l'acceptation.
Ça de la population.
Oui.
C'est pour ça que vous vital. Communiquez beaucoup. Moi, j'étais frappé par ça. On est obligé de dire aux gens, il y a des herbes de Posidonie, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, vous avez vraiment des réflexions de gens qui vous disent, mais vous nettoyez pas la plage, monsieur le maire? On vous dit ça encore?
Eh oui, on nous dit ça encore, mais de moins en moins, parce que les gens ont compris, et les médias ont fait leur travail très très bien, et finalement, on s'aperçoit que la Posidonie, c'est une chance. Et c'est une chance naturelle. Ça ne coûte rien. Il suffit de laisser de la Posidonie le plus longtemps sur les plages, et si possible toute l'année, ça fonctionne. Et ça empêche que le rabot effectué par la mer vienne emporter le sable lorsqu'il y a une tempête. Donc c'est ça qu'il faut garder absolument. C'est en train de rentrer dans les habitudes. Vous savez, il y a 50 ans de ça, les gens allaient se baigner, ils revenaient de la plage avec du goudron sous les pieds, il n'y en a plus. Ils revenaient avec de la Posidonie sur le corps, c'était pas un drame non plus. Donc, je crois que c'est en train de changer tout ça.
Alors, on a, nous, rencontré beaucoup d'habitants depuis qu'on est arrivé. Nous avons rencontré notamment ce matin Gérard, qui connaît bien la région. Il est originaire de Lyon, mais il passe une partie de sa retraite chez vous, dans votre commune, monsieur Bernardi. Il était en train de pêcher ce matin. Il nous explique qu'il a vu le paysage changer ces dernières années.
Ça fait 65 ans que je viens entre Cavalaire et ici, quoi. C'était des champs de melons, c'était des... mais c'était pas vraiment une station balnéaire, quoi. Et maintenant, une densité, c'est incroyable, quoi. Trois quarts des maisons ne sont pas habitées. C'est des maisons de vacances, c'est des... Donc, bon. On a fait le choix de ce qu'on vit tous les jours. L'argent, c'est que le fric, quoi. C'est le reste, la nature... Quand vous voyez Monaco, ça fait peur. Enfin, pour moi, ça me fait peur. Et en plus, quand vous savez, c'est les projets qu'ils ont, ils font tout dans le sol, ils creusent, ils prennent sur la mer. Et on va où, là?
Voilà, l'exemple de Monaco que prend Gérard à l'instant. Je voudrais vous faire réagir à ça, Sébastien Bernard. La pression des promoteurs, vous la sentez ici? Dès qu'il y a un terrain vide, tout de suite, il faut construire?
Alors, moi, je suis originaire des Alpes-Maritimes, ouais. Donc même par rapport au Var, là, l'anthropisation du littoral, elle est encore...
L'anthropisation, ça veut dire quoi? Quand on construit la place de l'homme sur le territoire.
Tout à fait, est encore plus marquée, hein, puisqu'on est quasiment en zone urbaine de Cannes jusqu'à Menton, hein, jusqu'à la frontière italienne. Et alors, nous, dans notre métier, on la ressent pas forcément, mais je pense que les collectivités, les collectivités locales, les élus, c'est un point particulier pour eux, et c'est compliqué. Ouais.
justement, pour accélérer ces prises de conscience, pour lutter aussi contre les pressions, vous avez monté une association il y a 4 ans. Bonjour Anne Settimelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'être venue de hier à quelques kilomètres d'ici. Vous avez fondé l'association de protection Explore et Préserve, et rien vous y destinait, si je puis dire. Vous n'étiez pas scientifique, pêcheur, ni même originaire d'ici. Qu'est-ce qui vous a motivé il y a 4 ans à monter cette association?
Je suis originaire d'ici. Du Sud. Ensuite, ce qui m'a décidé à monter cette association, c'est que je suis une amoureuse de la Méditerranée. J'ai tout le temps les pieds dans l'eau, sur l'eau ou sous l'eau. Et j'ai enquêté il y a à peu près 5 ans, il n'y avait aucune asso qui existait. Donc comme je râle beaucoup...
Ailleurs, à Toulon ?
Ouais, autour. Et comme je râle beaucoup, mes copains m'ont dit arrête de râler, fais quelque chose, monte une asso. Donc j'ai créé une asso qui fonctionne ma foi pas mal.
Vous êtes plus de 300 adhérents aujourd'hui ?
Ouais, c'est ça. Et on fait beaucoup de sensibilisation en milieu scolaire, grand public. On travaille beaucoup sur les pressions que subit notre jolie Méditerranée, qui est une mer, il faut le rappeler, monsieur le maire en parlait, qui est une mer qui est très riche. Il y a 3 jours, j'étais au Rayol, domaine du Rayol, il y avait des dauphins qui sautaient partout dans la baie. Il y a des cachalots, il y a des rorquals. C'est une mer qui palpite et qui est soumise aussi à une forte pression touristique. Il y a une pression au niveau de la pêche, surpêche. Problématique de pollution sauvage sur laquelle on travaille énormément, pollution plastique.
C'est quoi la pollution sauvage, ça, c'est quel comportement?
Alors, on pourrait faire une autre émission, hein, mais
on en fera une volontiers. On en parle souvent sur l'antenne de France Inter, mais puisque vous en parlez, ça m'intéresse de savoir quel comportement peut-être vous constatez, vous.
Alors, c'est une problématique qui est multifactorielle. Il y a beaucoup de 80% des déchets qu'on va retrouver en mer qui arrivent par les cours d'eau, les fleuves, et qui finissent donc dans nos mers. Et ensuite, il y a aussi des gestes d'incivilité. Il y a aussi une problématique de mauvaise gestion des déchets sur le littoral. Qu'on peut retrouver. Donc voilà, c'est un vaste problème et donc on sensibilise, on organise des collectes et on travaille aussi sur le, alors pas vraiment sur l'érosion, mais sur la biodiversité et notamment, on en parlait tout à l'heure, sur les posidonies, on peut revenir dessus, qui ont une valeur fondamentale sur notre territoire, aussi beau. Puisque, comme on le disait, c'est une plante protégée, endémique, méditerranée, et qui produit de l'oxygène, qui capte du carbone, qui fixe les sédiments, qui fixe le sable, et qui aussi fait des récifs, qui fait un récif naturel de protection contre la houle et les tempêtes.
Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles dans tout ce constat? Est-ce qu'il y a des espèces qu'on ne trouvait pas en mer et qu'on retrouve aujourd'hui? Je crois que vous nous parlez des tortues.
Si on en vient aux tortues, phénomène historique sur la commune de Hyères l'année dernière, on a eu 4 pontes et les tortues. Alors, si on parle des tortues, ce sont des exploratrices et migratrices. Et a priori, leur site de ponte serait saturé. Donc, elles viennent explorer de nouveaux territoires. Et les plages de Hyères leur vont apparemment très bien. Et donc l'autre problème qu'on rencontre sur nos plages, ce sont les cribleuses. On n'a pas parlé des cribleuses et des tracteurs qui passent sur les plages, certaines plages, pour présenter des plages propres entre guillemets aux touristes et aux usagers, et qui ne sont pas vraiment une bonne pratique, puisque on va enlever tout le substrat et les feuilles de posidonie.
Il y a des cribleuses sur votre commune, vous en utilisez, monsieur Bernardi?
Il y en avait beaucoup, mais on a réduit considérablement. Maintenant, c'est le ramassage manuel.
D'accord.
Avec des râteaux. C'est plus simple, c'est plus doux. Ça s'appelle une gestion raisonnée du sable. Ça fait partie de la panoplie que nous mettons en place.
Il nous reste quelques secondes. Prochaine action pour vous, si des gens veulent vous rejoindre.
Alors, ça sera le 5 juin à la Tour Fondue sur la presqu'île de Gien. Ça sera une opération qu'on construit avec le Parc National de Port-Cros.
Bravo pour ça et soyez nombreux avec votre association à Hyères, Anne Settimelli. Il faut qu'on aille à Saint-Tropez, il faut qu'on garde un tout petit peu de temps pour aller à Saint-Tropez. Parce qu'il y a une exposition, je ne sais pas si vous l'avez vue, autour de ce micro, au musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Depuis 2 semaines, exposition sur les 60 ans du film Le Gendarme de Saint-Tropez, mais qui est toujours dans toutes les mémoires parce que ce musée est extrêmement fréquenté. Film tourné il y a 60 ans en 2 semaines seulement, tout petit budget, énorme succès et toujours beaucoup de visiteurs, nous dit Laurence Durieux. C'est la directrice de ce musée à Saint-Tropez.
Ce premier épisode du Gendarme de Saint-Tropez a connu un énorme succès. Il a fait 7,8 millions d'entrées au cinéma, se plaçant ainsi en 3e position derrière La Grande Vadrouille et Le Corneau. Nous avons donc quelques documents inédits dans l'exposition, tels que des affiches des échanges de courriers entre le producteur, la SNC et la ville pour des autorisations de tournage. L'histoire de la première Mustang qui a été importée en France et qui a tourné pour la première fois dans un film français et en couleur. Et également une victoire, la victoire du cinéma qui a été reçue par Louis de Funès pour le rôle du gendarme en 1965.
Garde à vous, c'est pas un mot d'ordre, hein, c'est le nom de l'exposition sur 60 ans de ce film culte. C'est jusqu'au 9 mars 2025, vous avez un petit peu de temps à Saint-Tropez. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce 13-14 spécial sur le terrain. Je remercie tout particulièrement la commune du Lavandou pour son accueil aujourd'hui. Merci à Cécilia Arbona, accompagnée de Stéphanie Valois qui ont préparé cette émission, à notre chargé de production photographe Pascal Bress et à nos techniciens Gilles Gallinaro et Benjamin Reyes. Bonjour Mathieu Vidard.
Oui, bonjour Jérôme.
Quel est le programme aujourd'hui pour vous dans la Terre au Carré ?
Eh bien, une histoire de la désobéissance civile.
Très bien, ça colle avec Garde à vous. À tout de suite.